On va ouvrir le débat, la conversation. Merci de ce bref cours, disons, de discussion théorique, bien que sur base d'ouvrages en français. Donc, il y a aussi des publications en Hollande ou en Angleterre qui sont intéressantes à voir, je dis ça, pour ouvrir un peu l'expérience dans ce domaine. Alors, qui veut intervenir, poser une question, avoir un point de vue. Oui.
Comment finalement dans la pratique vous réconciliez cette tension entre d'un côté l'intérêt d'avoir des modèles qu'on va chercher à l'international et de l'autre côté, comme tu disais Georgios, le fait que finalement ces modèles ne sont jamais applicables. Donc comment finalement faire la part des choses entre ce qu'on va pomper à l'extérieur et le moment où on se dit non, c'est notre créativité et c'est le fait qu'on va faire des choses différentes pour Charleroi par exemple, qui font faire qu'on va avoir des politiques qui vont fonctionner.
Je pense que c'est un peu comme la bibliothèque d'un écrivain, quoi. Tous ces modèles, un écrivain ne déchire pas des pages des livres qui sont dans sa bibliothèque pour écrire son livre. Pourtant, il en a une, quoi. Et donc, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois, c'est que tous ces modèles sont là, on les étudie, on s'en inspire, et ces modèles sont là pour, en fait, aussi nous aider à construire notre propre univers, comme cette fameuse bibliothèque d'un écrivain. En tout cas, moi, voilà. L'idée, en tout cas, c'est de ne pas faire des copier-coller, quoi, ou découper, coller, et donc d'avoir un urbanisme de patchwork, d'envie. Voilà, j'ai envie d'avoir un Guggenheim, bam, on colle un musée, quoi. J'ai envie d'avoir l'esplanade de telle ville, bam, on la colle, et donc on arrive à quelque chose de complètement incohérent, d'insipide. Donc voilà.
Tu veux ajouter quelque chose?
Pas trop ici le micro, je parle beaucoup. Oui, peut-être un élément sur lequel j'ai pas insisté et qui était aussi assez particulier dans la présentation, ou singulier dans la présentation de Georgios, c'est que par exemple dans les acteurs du projet urbain, il n'a pas mentionné les universités. Hein, et donc, alors, non, mais il y a toute la singularité, la particularité de Charleroi. Mais en réalité, je pense que plus largement, dans la question du projet, de la planification urbaine en Belgique francophone, l'absence de formation adéquate est un des problèmes, est un des sujets. Et donc, il y a bien sûr des formations en urbanisme, dans l'une ou l'autre université, mais en réalité, ce sont des formations qui ne répondent pas, aux défis du développement urbain, actuel. Et donc, par rapport à ta question, je dirais. Je n'ai pas de réponse, mais moi je pense qu'en réalité, un élément de réponse, c'est ce que fait Georgios à Charleroi. Il y a aussi des réflexions intéressantes à Liège, par exemple, hein, qui sont menées par une plateforme citoyenne Urbagora, etc. C'est la fabrication d'une politique de ville propre à la Wallonie. Hein, mais elle doit s'alimenter sur plusieurs piliers. Donc il y a bien sûr la pratique, il y a le monde de l'enseignement, il doit y avoir le monde de l'administration, il doit y avoir les praticiens, etc. Ce sont des choses qui se complètent et il faut créer un écosystème de praticiens de la ville. Et c'est quelque chose qui n'existe pas du tout, en fait, hein, qui n'existe absolument pas. Et tant que ça n'existera pas, on va aller chercher les modèles ou les politiques vont aller chercher des modèles ailleurs. Donc je pense que c'est aussi aux praticiens, au monde académique, au monde associatif de se rassembler. Donc c'est aussi pour ça qu'un moment comme aujourd'hui est intéressant, pour faire émerger une vision partagée de ce que doit être, ou des enjeux en tout cas, du développement urbain.
Si je peux ajouter, moi je pense que l'enjeu principal c'est d'insérer dans la lecture du modèle à quel problème ce modèle était une réponse. Et ce qu'on fait trop, c'est de regarder la solution et de ne pas regarder la problématique qui était avant. Et donc, pour par exemple le problème de Guggenheim, qui est une installation architecturale, qui est une transformation de la zone portuaire en réalité, qui aussi s'est déplacée vers la mer pour faire un port de conteneurs et donc réaménagement du territoire. Mais ce qu'on oublie, c'était un geste contre la fermeture, disons, de la culture basque locale pour l'ouvrir au monde d'une certaine façon. Et donc, en réalité, la problématique de développer la ville industrielle à une ville post-industrielle, c'est d'en faire aussi une ville avec un rayonnement plus, plus large. Et donc, inviter Guggenheim et ne pas faire un musée, disons, d'art contemporain local, était parti. Donc, le même problème ne se pose pas partout. Et donc, je pense que là, il est très important de bien désigner quelle était la problématique pour cette solution, pour cette solution-là, et ne pas reprendre la solution dans un autre contexte. Qui ? Oui ?
Quelle est la part de la dimension de la ville dans la réflexion et aussi dans le choix et le rôle des acteurs au niveau d'urbanisme, puisque on a quand même des villes relativement petites par rapport à celles qui pourraient éventuellement nous servir de modèle même partiel à l'étranger.
Tu as déjà réfléchi ou...
Oui, les villes belges sont trop petites, en fait. Moi, c'est le constat que je fais. Les villes belges sont extrêmement petites. On est un pays qui est extrêmement petit, en réalité. Et on ne capitalise pas assez, en fait. Et donc, Eric en a souvent parlé, par exemple, le fait que la politique de la ville disparaisse au niveau fédéral est assez dramatique parce que des échanges et une circulation des idées qui pouvaient avoir lieu entre acteurs belges au sens large a disparu de manière progressive et on se retranche chacun chez soi dans sa propre région. Du coup, moi j'insiste à chaque fois que je peux pour mettre l'accent sur la politique de la ville wallonne qui est extrêmement importante à mettre en place par rapport au partage de connaissances et au fait de pouvoir capitaliser sur des expériences. Donc j'ai siégé dans la fameuse task force FEDER il y a 2 ans avec un collègue qui est dans la salle ici. Moi j'étais étonné, vraiment surpris à quel point, au point de voir à quel point chaque ville réinventait l'eau chaude. En fait, chaque ville essaye, face à des problèmes qui sont communs, par exemple la question du commerce, qui est quelque chose qui est commun dans quasiment tous les centres-villes wallons, chacun vient avec sa solution. Mais à un moment donné, se mettre ensemble, se rassembler entre villes, pour voir quelles sont les expériences qui ont été menées, comment amener des réponses, comment capitaliser sur des échecs, mais aussi sur des réussites, voilà, c'est quelque chose qui me paraît essentiel à faire, qui ne se fait pas pour le moment. Donc la taille de la ville, pour le moment, vous le voyez avec la citation de M. Prévost, je l'ai cité parce que quand on est à Guggenheim-Prévost, vous l'avez plusieurs fois. Mais Namur est une ville relativement petite, très petite. Elle est capitale de la Wallonie, donc elle est un peu surchargée en fonctionnalité par rapport à sa taille, mais elle n'a absolument rien à voir avec Bilbao. Donc Eric Correin le rappelait, une ville en crise, un port en crise, on ne peut pas comparer ces villes entre elles, ce n'est même pas une question de taille, en réalité c'est une question de questions qui est posée à l'origine ou d'enjeux qui se posent au départ.
Taille et richesse. Donc je pense que si on veut vraiment réfléchir, la taille, si c'est une petite taille avec beaucoup de riches, beaucoup de richesses, on peut faire plus de choses qu'une grande taille avec beaucoup de pauvres. Et là, en Belgique, naturellement, il y a 2 éléments qui jouent dans le monde. C'est qu'en réalité, les villes produisent les richesses, mais c'est l'État qui les reprend et redistribue. Et au niveau du pouvoir d'achat, c'est les suburbains qui ont l'argent et pas les centres-villes. C'est typiquement à Bruxelles, c'est un modèle américain en réalité. Les pauvres restent au centre-ville et doivent payer une infrastructure pour les suburbains qui ne contribuent pas, mais qui veulent quand même rentrer sur des bonnes routes avec des tunnels qui sont tenus en ordre comme à Bruxelles, etc. Et donc il y a 2 éléments, je pense, à lutter en réalité pour que les richesses produites dans l'urbain peuvent être réinvesties pour faire des bonnes villes. Et ça, c'est vraiment, je pense, un rapport de force à réinstaller c'est la différence entre l'aménagement du territoire et des projets urbains, ou faire ville, qui est autre chose. Mais donc, je pense qu'il y a un rapport, et toutes les grandes villes actuellement sont en conflit avec l'État central sur, disons, l'impossibilité d'investir ce qui est nécessaire parce que l'argent est repris et est investi ailleurs. Oui ?
Oui, je voudrais avoir votre sentiment sur
cette réflexion un peu provocatrice et qui ne réduit pas du tout vos mérites, mais sur le fait qu'il y a parfois une énorme disproportion entre les effets réels de ces politiques de planification et la symbolique que ça implique. On cite Bilbao, et à chaque fois on lit Bilbao à Guggenheim. D'abord, la rénovation de Bilbao et la RIA de Bilbao, c'est beaucoup d'autres choses que Guggenheim. Les effets de Guggenheim sont réduits et sont extrêmement décevants par rapport aux attentes. Après les années qui passent, quand on voit le public qui le fréquente, l'origine du public, et on parlait de Barcelone, vous avez attiré l'attention sur le fait qu'aujourd'hui, Barcelone est en crise, mais ces réalisations, à un moment donné, génèrent un récit collectif, une fierté par rapport à ce qui se fait, une réappropriation. Moi, j'avais été frappé par le récit des deux traversées de la France par Axel Kahn à pied, et il montrait que les endroits où ça se développait le mieux, notamment le Grand Sud-Ouest, c'était étroitement lié, en comparaison avec la Creuse, à la fierté qu'avaient les gens de participer à un récit collectif, de se développer. On parle de Bordeaux, etc. Et donc, la question par rapport à ce que vous indiquez, parfois, les effets sont relativement réduits, mais, et on le vit à Charleroi, ça génère auprès de la population, Georgios l'a dit tout à l'heure, ces photos positives, cette idée qu'on a. Moi, je ne crois pas qu'on ait le nouveau Berlin, mais je suis extrêmement ravi quand des gens de l'extérieur me disent qu'ils viennent à Charleroi et qu'on ait le nouveau Berlin. Et je dodeline tout doucement la tête en disant c'est sans doute vrai si vous l'indiquez. Donc il y a là parfois une grande dichotomie entre l'effet réel de l'aménagement de la planification et ce que ça génère au niveau de la population.
C'est difficile, hein, évidemment.
Tu veux le licencier, c'est ça? Ça coûte trop cher.
Mais je pense que, par exemple, il y a eu une expérience assez intéressante qui a été menée il y a un peu plus d'un mois sur Charleroi, qui participe d'un récit urbain qu'on est en train d'écrire. C'est la promenade de la boucle noire. Et donc, c'est un récit urbain qui s'attache comme ça, pas forcément à un bâtiment, comme par exemple l'hôtel de police. Je n'ai pas l'impression que l'hôtel de police a eu un rayonnement comme certains autres bâtiments internationaux. Mais en tout cas, il a contribué à changer comme ça la silhouette, le paysage de Charleroi. Et ce qui s'est passé, par exemple, dans le cadre d'Asphalte, qui a été porté par l'EDN, c'était cette fameuse boucle noire, où à un certain moment, on retrouve 400 personnes qui viennent de toute la Belgique, marcher et découvrir les paysages, des paysages qui sont typiques de Charleroi. Et donc, dans l'imaginaire comme ça collectif des citoyens, Charleroi, ben, c'est vraiment une ville qui a une gueule particulière. C'est pas une belle ville, une moche ville. C'est une ville qui a une gueule particulière et qu'on va aller vivre à travers, par exemple, la notion de promenade. Et j'ai l'impression que ça participe comme ça d'un récit urbain dans lequel il y a, pour l'instant, différents fragments comme ça qui s'agencent. Je pense pas qu'on ait comme ça un élément sur lequel on peut capitaliser actuellement. Ça, c'est sûr. C'est quelque chose qui est en construction au niveau de l'histoire qu'on est en train d'écrire tous ensemble. Hein. Il y a plein de groupes citoyens qui travaillent sur différentes choses. Il y a la question de l'image aussi. Par exemple, on est dans une image contemporaine, moderne, avec toute une série. Par exemple, le logo, l'identité graphique de Charleroi participe aussi à l'identité au récit urbain de Charleroi. C'est quelque chose qui a très bien fonctionné au niveau local, mais qui a très bien fonctionné aussi au niveau international. On avait une identité qui était connue et reconnue en fait des professionnels du monde entier, quoi. Et donc la question de l'image aussi est quelque chose de très important. À Charleroi, on peut créer des images qu'on ne pourrait pas peut-être créer à Namur ou dans d'autres villes plus traditionnelles, quoi.
Benoît. Peut-être aussi pour rebondir, par exemple, sur l'expérience de Barcelone. Moi, j'ai fait un homme à tout faire. J'ai passé une année à Barcelone à étudier. Les praticiens de la ville font partie des gens qui sont reconnus dans la ville, entre guillemets. Donc, vous lisez fréquemment dans le journal des noms d'urbanistes, des noms d'architectes. Ils font partie du débat public, en réalité. Hein, comme des hommes politiques ou des gens qui sont dans le secteur de la culture. Si maintenant on demande dans cette salle, peut-être pas ici, parce qu'on n'a pas un public représentatif, mais de citer un architecte. Bon, tout le monde parlera de Calatrava, évidemment, parce que c'est celui qu'on connaît. Mais connaissez-vous des architectes wallons qui ont une pratique aussi intéressante, voire plus intéressante? Donc je pense qu'il y a tout un travail aussi sur le récit propre à l'architecture wallonne à créer. Donc ce n'est pas uniquement un récit sur la ville ou la politique urbaine, mais c'est vraiment au-delà un récit sur sa propre identité et sur l'architecture wallonne qui doit être créée. Ça me semble extrêmement important. Donc on ne connaît pas... est-ce que vous connaissez... est-ce que vous êtes capable de donner un nom d'un urbaniste wallon qui est reconnu à un certain niveau? Il y en a pourtant, mais ils ne font pas partie de la discussion, du débat public, etc. Voilà. Récemment, je le dis parce qu'elle est là dans la salle, je vais quand même le dire à Arlette, mais il y a une personne dans la salle ici qui a reçu la médaille du mérite wallon et elle est architecte. Voilà. C'est la première femme architecte de Wallonie à recevoir cet ordre. Mais on en a très peu parlé dans la presse. On est plus intéressé par les dépenses en milliards d'euros de la gare de Mons que par la fierté de sa production propre. Voilà. Et ça, il faudrait que ça change.
Puis encore une phrase. Moi, je suis beaucoup plus nuancé que vous dans ce jugement un peu quand même négatif. Parce que sans le Guggenheim, pas de centre de congrès, pas de réaménagement de la RIA. Et donc, il y a une médiation aussi. Et donc, si on calcule toujours l'effet direct de l'investissement, je vous demanderai aussi combien de milliards sont dépensés dans une politique de remise à l'emploi qui génère beaucoup d'intermédiaires, mais très peu d'emplois en réalité. Et donc, en fait, je pense qu'il faut... le Guggenheim, c'est comparé à la dépense d'argent dans d'autres activités économiques. C'est quand même très, très minime. Hein. Faire un musée, ça ne coûte pas grand-chose. On est vraiment, je trouve, on éduque la population pour des trucs. Quand il s'agit d'esthétique ou de beau, c'est du luxe. Mais quand il s'agit de béton et d'asphalte, on a investi des milliards et des milliards qui ne sont jamais investis dans un musée. Donc je pense qu'il faut être très nuancé dans ces calculs d'effets.
Oui, mais en fait, la question s'adresse peut-être au départ un peu plus à M. Corrègne et à vous aussi. Mais vous avez déjà évoqué à deux fois les tensions entre la ville dans son centre et sa périphérie. Et moi, ça m'intéresse fort parce que je suis convaincu aujourd'hui que la ville est le microcosme de ce qui se passe à un échelon plus large. Les centres-villes ont été abandonnés. On l'a vu à Gand, on le voit à Anvers, on l'a vu à Charleroi. Il y a eu une forte immigration. Et aujourd'hui, les gens de la périphérie se disent, tiens, on va se réapproprier ce centre-ville. Mais les gens qui y sont, ce n'est pas ceux qu'on veut. Et moi, je me demande, parce qu'évidemment, il y a l'exemple anversois que je suis et dont vous avez parlé. Comment peut-on résoudre ce problème? Parce que finalement, ça mène un rapport de force qui est assez violent. Et en même temps, ça pose une question qui est quand même très importante, c'est que si cette politique, finalement, par exemple à Anvers, est prise, c'est quand même une orientation moyen et long terme qui inévitablement aura des conséquences et ne pourra pas être modifiée. Alors je n'ai pas la réponse, hein, c'est vraiment une question que je pose. Comment peut-on résoudre ce problème? On le voit aussi à Charleroi. Hein. Moi, je travaille dans ma profession, je rencontre des gens de la périphérie, etc. On dit, ouais, ils sont de Charleroi... les immigrés, etc. Donc il n'y a pas d'assimilation, il y a une opposition et la solution, c'est effectivement, pour qu'on retourne au centre de Charleroi, il faut que nous ayons notre confort parce que sinon, on ne voit pas pourquoi. Et deuxièmement, il ne faut pas y rencontrer les gens qu'on n'a pas envie de voir. Voilà, c'est un peu brutal, hein, mais c'est un petit peu comme ça.
Oui. Donc c'est vrai qu'on vit dans une opposition actuellement. Quand on regarde les cartes de vote de Brexit, quand on regarde les cartes actuellement de électoral politique Clinton-Trump, etc., ce qui ressort, c'est l'urbain et le suburbain. Même pas le rural, mais enfin, hein, le suburbain résidentiel, en fait. On voit donc que c'est actuellement en conflit. Et donc, un conflit, c'est un enjeu. Ou bien on retourne à une territorialité, disons... État-nation, protectionnisme, etc., hein, ce qui est d'ailleurs la ligne qui sera suivie. Et je pense que les villes seront déconstruite dans Saint-Cyr. Si le Vlaams Belang, il y a 25 ans déjà, aurait eu raison, renvoyer les migrants à ce moment-là avec l'exode urbain en même temps, c'était la mort sûre de nos villes. Heureusement que les immigrés ont été à Bruxelles pour maintenir la ville pendant que les Belges, en fait, n'en voulaient plus. Parce que c'est ça la réalité. Alors, quelle est la solution? Pour moi, il y a deux solutions. Il faut une gouvernance métropolitaine. Et donc, il faut jouer, disons, la transfrontalière. La ville et les communes périphériques, sans se voir, sans discuter ensemble sur... Il faut faire payer aussi la périphérie aux services qu'ils emploient dans la ville. Et pour ce faire, il y a, pour moi, une lutte de civilisation. Une lutte, disons, d'éducation, où l'école, les médias, etc. Et donc là, le problème, c'est que les éducateurs sont trop suburbains actuellement. Eux, ils viennent pour... la vision sur le cosmopolitisme, le vivre ensemble sur base de la diversité, le mélange, etc. Il y a la classe moyenne blanche qui a peur de cela et qui sont, en fait, des mauvais éducateurs. Mais je pense que cette tension va mener à vraiment un conflit. Si on veut sauver l'Europe, ça doit devenir une Europe mélangée, mixte, européenne, et ça ne peut plus rester une Europe où les universités, les musées, etc., restent nationaux, paroissiales. Et donc, voilà, je pense que vraiment, il y a un enjeu à ce niveau. Comme tout enjeu, il y a des perdants et des gagnants. Moi, je suis du côté des villes contre les États-nations. Il y en a qui sont nationalistes ou chauvins contre le monde qui se produit en ville. Mais je pense que là, tout le monde devra prendre une position, je pense. Vous êtes d'accord ou pas? Oui. Oui, monsieur. Il n'y a pas de micro. Je ne sais pas où est. Ah oui. Non, monsieur était avant. Et puis madame.
Oui, bonjour. On m'entend? Oui, voilà. Mais j'ai l'impression que le débat, effectivement, tourne autour d'une question de conflit d'intérêts, de lutte où il y a une part idéologique et de lutte de territoire. Ça m'intéresserait de reprojeter finalement ce débat, qui est un débat d'idées, sur les processus actuels qui se passent à Charleroi. Je trouve que le catalogue d'intentions que le bureau du Baumeister produit est extrêmement intéressant. Je trouve qu'il y a effectivement cette envie de se réancrer dans un terreau culturel local, dans une image locale extrêmement intéressant, et peut-être effectivement un pont possible entre dans ces conflits-là. Moi, j'aimerais bien relancer la question vers le Baumeister et peut-être vers Benoît et vers Eric Corain sur quelles sont les méthodologies, au-delà de ce que Georgios tu expliquais sur la bibliothèque de l'écrivain qui se saisit de modèles et les recompose et les reprojette dans un imaginaire, mais qui est un imaginaire, si tu prends l'image de l'écrivain, très subjectif, très personnel, très lié à une dynamique subjective. Quelles sont les méthodes, quels sont les dispositifs qu'on peut mettre en place pour permettre, notamment aux habitants qui sont évoqués, donc les habitants du centre-ville, actuels et futurs, de s'approprier, de se projeter dans un imaginaire urbain. Comment fait-on en tant qu'acteur public pour... Quel dispositif mettons en place pour que l'opération se fasse, finalement? Actuellement, il y a toute une série d'opérations sur le centre-ville, il y a un énorme redéveloppement, il y a aussi beaucoup de projets qui se font avec des architectes qui viennent de l'extérieur, il y a aussi quand même du name-dropping, il y a quand même aussi un effet du Guggenheim, même si il est questionné dans la théorie, mais il est quand même présent dans la pratique, actuellement, dans Charleroi, dans la façon dont les projets sont choisis, dans la façon dont même les cahiers de charges sont établis pour les espaces urbains. Donc voilà, qu'est-ce qui, à côté de ça, permet justement à ce lien de se faire entre les habitants et ce qui est projeté sur l'image de la ville?
Mais, en fait, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure dans la présentation, c'est qu'il y a différents types de projets. Il y a les projets matériels, les projets qui sont... qui prennent du temps en fait à être développées, qui ne peuvent pas être se faire approprier comme ça par les citoyens tout de suite. Ce sont les projets d'architecture, par exemple, un citoyen peut très difficilement rentrer comme ça dans des esquisses, des avant-projets d'architecture. Ils s'en fichent complètement. En général, il faut un pouvoir d'imagination assez grand pour pouvoir rentrer dans les futurs espaces qu'on est en train de leur construire. Donc, ce que j'expliquais, c'est que, eh bien, puisque c'est difficile pour la majorité des gens et même pour certains architectes, hein, eh bien, travaillons sur les espaces qu'on a actuellement, ben, sur notre héritage, nos espaces publics qui ne sont pas encore complètement rénovés. Et donc, c'est comment est-ce qu'on peut les activer, là, tout de suite, avec très peu de moyens, parce qu'en fait, à Charleroi, je pense que ce n'est pas une ville non plus très riche, hein, comme le disait Eric, à travers des projets plus soft, quoi. Donc, il y a la question, par exemple, de l'événementiel. Comment, à un certain moment, des événements sont capables de recréer une dynamique urbaine qu'on avait complètement perdue à Charleroi. Donc, voilà, il y a toute une série d'événements qui viennent réanimer, en fait, une ville qu'on est en train de voir mourir. Et donc, c'est difficile de dire autre chose que ce que j'ai expliqué, mais c'est vraiment une sorte de synergie entre des projets immatériels qui sont de l'ordre de l'image, de l'identité, de l'événement, de la formation, avec des projets qui vont prendre beaucoup plus de temps pour se réaliser, donc ces fameux projets d'architecture. Je n'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de name-dropping, alors. Hein, j'ai l'impression que c'est une sorte de provocation de la part d'un des associés de l'ESCO, ici sur Charleroi. Mais, et alors, il y a aussi le projet de territoire, c'est un des derniers plans en fait, que j'ai présenté. C'est comment on réorganise notre territoire. Alors c'est vrai que pour l'instant il y a un focus sur le cœur de ville. Et par exemple là on est en contradiction totale avec certaines universités, enfin avec certaines universités par exemple. Leuven pense qu'il faut vraiment travailler sur l'entièreté, construire sur l'entièreté du territoire. Nous en fait on pense qu'à un certain moment non, il faut faire dans un premier temps un focus sur le centre-ville, avoir un projet de territoire qui concerne l'entièreté de Charleroi, sans oublier que demain, après-demain, en fait, on va commencer à développer les autres districts. Et donc, le projet de territoire qu'on présente, ce n'est pas un projet radioconcentrique, hein, donc, qui nie en fait, tout ce qui se passe hors du cœur de ville. C'est un projet qui essaye d'articuler les différents centres urbains de Charleroi, les différentes structures, les différents districts de Charleroi pour en faire un organisme cohérent. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que, je pense par rapport à ce que tu disais, c'est qu'à un moment, il faut aussi retrouver une certaine hiérarchie à Charleroi. Et donc, retrouver des grands projets perdus un peu partout sur le territoire, eh bien, ça montrait aussi la faiblesse conceptuel du politique et organisationnel aussi par rapport à son territoire. Et donc, retrouver des institutions un peu partout, comme ça, disséminées en fonction, par exemple, de préoccupations électorales, par exemple, hein, entre autres, sur le territoire, eh bien, ça ne peut plus se faire. Parce que là, on a un projet de territoire qui hiérarchise, en fait, de manière assez limpide, et on a tous les retours aussi du secteur privé qui sont assez heureux de voir qu'à un certain moment, ben voilà, on recrée de l'ordre sur le territoire. Et donc, on a, c'est ce qu'on appelle le retour des grandes fonctions métropolitaines en centre-ville.
Deux, trois ajouts sur la méthodologie. Pour moi, la méthode centrale, c'est de se créer une ambition au-delà des élus et des administrations, qu'ils ne peuvent pas faire seuls. C'est-à-dire, c'est qu'on crée une image du futur qui doit être faite ensemble avec la société civile. Et avec quel type de société civile ? Avec une société civile qui veut être citoyenne et pas cliente. Et là, il y a un changement de gouvernement vers gouvernance, qui qui est un changement de mentalité des élus et des politiques, mais aussi un grand changement d'une partie de la population qui pense que le politique est là pour servir la population. Non, le politique doit être là pour diriger la population dans une ambition. Et donc je pense que la coalition de développement à faire, c'est avec une partie de la société civile qui veut prendre la responsabilité, pas être réceptacle seulement, et une partie du politique qui veut diriger, hein, gouverner plutôt que d'être le patron de la ville. Le bourgmestre n'est pas, disons, donc, le CEO de la ville. Ce n'est pas une... Non, mais enfin, il y a des modèles de ville où on pense que la ville est une entreprise. Ça a été l'erreur, en réalité, de Patrick Janssens à Anvers, c'est d'avoir organisé une ville comme une bonne organisation et pas seulement comme un mouvement et un projet. Et donc là, je pense vraiment qu'il y a un débat de fond à avoir aussi sur quels sont les bons et les mauvais projets. Les bons projets, c'est des projets qui font un futur meilleur et pas qui maintiennent d'une façon défensive une indépendance qui n'existe quand même pas et qui va se perdre. Et donc, qui pense l'interdépendance. Tout ça, c'est... Enfin, mais je pense que la bonne méthodologie, on peut la sortir de bonnes pratiques qu'on voit, mais il faut avoir le personnel à l'avoir. Bruxelles, par exemple, n'a clairement, pour moi, je parle ouvertement, pas le personnel pour faire cela. Refuse de faire un imaginaire qui se projette en tant que capitale de l'Europe, par exemple. Et donc, on reste au niveau de ce que le bourgmestre d'Etterbeek peut penser de cela. Et donc, c'est... Voilà.
Moi, j'aurais plutôt une question par rapport à l'application et au périmètre d'application de la planification urbaine. Donc, comment le territoire est choisi sur lequel on fait une planification urbaine et comment on se retrouve sans no man's land entre différents territoires dans lesquels il y a une planification? Comment ce choix est fait?
En Belgique francophone, en Wallonie en particulier, le territoire est déterminé par les communes. Donc c'est voilà, il y a l'instrument des schémas de structure par exemple, mais qui est défini par des limites administratives des communes. Donc il y a très peu d'outils qui travaillent sur l'intercommunalité et le territoire métropolitain par exemple. Donc Georges a montré le SCOT qui va se préparer sur le territoire de Charleroi, Charleroi-Sud-Hainaut, etc. Mais à nouveau c'est une exception. Si on prend les grandes métropoles belges. Autour d'Anvers, il n'y a pas d'instrument qui réfléchisse à l'échelle métropolitaine. Autour du Bruxelles, n'en parlons pas. On est sur deux régions différentes, donc c'est quasiment parler une chose impossible. On a l'impression qu'il faut faire venir UN Habitat pour nous aider à venir travailler sur le sujet. Mais donc, je pense que l'échelle réelle des agglomérations et des problèmes qui sont évoqués, c'est l'échelle des métropoles. Seulement, c'est une échelle qui est peu abordée, pour la même raison que ce qu'a évoqué Eric tout à l'heure. On préfère rester dans sa petite échelle communale parce qu'on la maîtrise plutôt que dans l'échelle métropolitaine. Voilà. Après, chaque agglomération a ses propres problèmes. Là aussi, à nouveau, le cas de Liège n'est pas identique au cas de Charleroi, n'est pas identique au cas de Mons, de Namur ou de Bruxelles. Donc il y a aussi, je pense, des singularités particulières au territoire belge. Je pense que Madame Michèle Larue-Charlu va peut-être nous éclairer sur un modèle français. Mais on a aussi des spécificités qui sont propres à nos territoires, qui font que, et pour revenir au discours de Georgios, ce qu'il a essayé de mettre en avant, on doit penser en termes de modèle propre. Pour rebondir, par exemple, sur... et pour donner un exemple de ce que je dis, Eric nous a parlé tout à l'heure de Bruxelles, l'absence de projet de ville, etc. Il y a énormément de défis urbains qui se posent à Bruxelles, énormément. Ici aussi, bien sûr, mais à Bruxelles, le défi démographique, la population, un chômage à 25%, une population en croissance, plus 150 000 habitants d'ici à 10 ans, c'est quelque chose de... Voilà, un défi majeur pour la ville. Le personnel qui travaille dans les administrations, pour la plupart, ils viennent de Sciences Po Paris. Ils ont fait urbanisme à Sciences Po Paris, hein, parce qu'il n'y a pas de formation chez nous. Et donc, comment veut-on aborder et relever les enjeux et les défis avec des gens qui viennent sur base d'un enseignement qui est importé d'ailleurs, je dirais? Ben, on ne va pas y arriver, on n'y arrivera pas. Du coup, pour moi, la priorité est la question de l'enseignement et de la formation.
Bon, on va s'en tenir là parce que le temps est là. Remercions les orateurs et le bon débat. On va prendre l'apéritif et puis on va écouter la grande conférence dans un quart d'heure.